La citation du jour aujourd'hui dans l'éphéméride du jour, c'est une citation de Victor Hugo. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Puis je trouvais que ça allait bien avec la prochaine entrevue. On va parler du défi Karine Paquin. Nous recevons donc aujourd'hui une autrice qui a décidé de transformer la lecture en une véritable aventure collective. Hein? Quand on parle de défi et parfois dans l'inconnu, une aventure. Alors Karine Paquin, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci à vous.
Alors, vous avez lancé, Karine, le défi, Karine Paquin, de manière assez spontanée sur vos réseaux sociaux l'été dernier. C'était quoi l'élément déclencheur ou l'étincelle précise qui a poussé là, ou qui a généré cette création-là?
Bien, en fait, il faut savoir que moi, je suis auteure, je suis une autrice jeunesse, donc ça fait 13 ans là, que j'œuvre dans le domaine littéraire, en littérature jeunesse, puis dans le cadre de mon travail, je me déplace souvent dans les écoles pour donner des ateliers, des conférences, des trucs comme ça, puis depuis le début de ma carrière, je cherche toujours la façon d'accrocher, de donner le goût de lire aux enfants, de fil en aiguille à travers les années, à me déplacer dans les classes, à un moment, j'avais eu l'idée de lancer des défis aux classes que je visitais en personne. Donc, je leur lançais le défi de se fixer un objectif de lecture et de tenter de l'atteindre d'ici la fin de l'année. Puis là, je leur disais, quand vous réussissez, vous m'écrivez, puis là, je vous envoie des cadeaux. Donc là, ça avait bien fonctionné, puis je m'étais demandé comment je pourrais élargir la portée de la mission à plus de classes, parce qu'il y a une capacité maximale de classe que je peux visiter dans une année en personne. Et de là, m'est venue tout simplement l'idée de dire, je vais lancer l'invitation à toutes les classes en début d'année, puis voir qui embarque dans le défi Karine Paquin.
Wow! Alors, le concept repose sur un thermomètre à colorier avec des objectifs fixés par les classes elles-mêmes. Alors, pourquoi cette approche visuelle on pourrait dire participative, fonctionne si bien? Parce que là, on parle de 2500 élèves là, qui ont relevé le défi, là.
Oui, en fait, je m'adresse à des élèves du primaire, donc
du primaire,
on parle de même préscolaire primaire, donc okay. Des enfants de moins de 12 ans. Alors, un repère visuel, c'est bien pour eux de visualiser la quantité de livres, parce que là, tu sais, on dit 20, 30, 40 livres, mais quand on le voit, le thermomètre qui augmente, puis qu'on voit notre défi tranquillement, on voit qu'on va atteindre notre objectif, c'est super motivant pour les enfants. Puis moi, j'avais surtout envie de donner un projet clé en main aux enseignants puis aux enseignantes. On sait que la tâche est lourde. J'ai moi-même enseigné jadis il y a quelques années. Donc, j'avais envie vraiment de leur proposer quelque chose de clé en main qu'ils vont pouvoir prendre, mettre dans la classe, puis suivre de façon assez facile et naturelle. De là, l'idée de créer moi-même le visuel et de ne pas laisser la lourde tâche aux enseignants de réfléchir à comment compiler toutes nos lectures.
Ouais, c'est intéressant tout ça. Puis dans les défis que vous lancez en cours de route, vous encouragez la découverte d'œuvres de littérature d'ici. C'est important pour vous, ça?
Absolument. Mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est que tout au long du défi, j'accompagnais les jeunes à travers des vidéos là, qui les motivaient. Puis je relançais, comme vous dites, des nouveaux défis, dont découvre un auteur québécois ou c'est super important pour garder notre culture en vie, pour garder le marché, l'industrie du livre en santé, pour que les jeunes puissent avoir des référents aussi qui leur ressemblent, pour que les jeunes puissent lire des œuvres, des ouvrages de gens d'ici. Puis il faut savoir que le milieu littéraire, c'est un petit milieu hein, au Québec, puis c'est facile d'avoir accès à ces auteurs-là qui écrivent, donc d'aller dans les salons du livre, de les rencontrer, donc de créer un sentiment d'appartenance aussi à la littérature. C'était important pour moi de le faire.
Faire lire les jeunes des livres alors qu'ils ont souvent leur nez dans les cellulaires, c'est déjà tout un beau défi à relever. Et je vais donner des chiffres, puis corrigez-moi, Karine, si ça a évolué depuis, parce que j'ai tiens ça de communiqué de presse qui date quand même de quelques semaines. On parle de 61 000 livres lus à travers les 11 régions administratives du Québec. C'est toujours ça?
Ben oui, parce que le défi s'est terminé en fait en décembre. Le défi durait un certain temps, soit de fin septembre à début décembre.
Donc, il n'y a pas eu d'autres...
Il n'y a pas eu d'autres, non. Les prochains chiffres vont être pour l'édition 2026-27.
Parfait. Alors, au-delà des chiffres, là, quel témoignage, est-ce qu'on peut parler un peu des réactions des enseignants, enseignantes ou même les élèves? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous ont...
Oui. C'est intéressant que vous me posiez la question parce que j'arrive du Salon du livre de Québec, de là ma petite voix rauque. J'ai passé,
on n'avait pas noté ça.
Donc voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de jeunes dernièrement là, qui ont fait le défi Karine Paquin. Fait que là, c'était super intéressant de voir ces enfants-là qui venaient vers moi pour me dire « Hey, on a fait le défi Karine Paquin ». Et chaque fois, je leur demandais « Est-ce que ça vous a motivé? Avez-vous atteint votre défi? Est-ce que c'était le fun? » Et je voyais les étoiles dans les yeux des enfants. « Ah oui, on a vraiment aimé ça. C'était le fun. On t'a vu en vidéo. » Donc, les jeunes sont venus vers moi. Ils n'avaient pas à le faire. Il n'y a personne qui leur a dit de le faire. Donc ça, c'est un bon indice que ça l'a super bien fonctionné. Et oui, il y a aussi des enseignants et des enseignantes à la fin du défi qui avaient pris la peine de m'écrire pour me dire merci pour cette belle motivation-là, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est de trouver une motivation pour nos élèves, pour les faire lire, parce que c'est en fait, on veut créer des habitudes de lecture. Pour créer une habitude de lecture, ben il faut que l'enfant déjà accepte d'ouvrir un livre et de le lire. Et là, ben c'est là que moi j'entre en jeu avec le défi, c'est que là, je leur donne une motivation de le faire. Au départ, la motivation, elle est extrinsèque, donc pour le défi. Mais à force de lire, d'ouvrir des livres, vous les avez nommés, là, les 66 000 livres, donc des enfants ont lu des livres qu'ils auraient probablement jamais lus. Mais là, à partir du moment où on entre dans le milieu littéraire et dans les défis, j'avais aussi « Découvre des nouveaux genres ». Si t'as jamais lu de BD, lis-en une. Si t'as jamais lu de documentaire, lis-en un. Et là, on a peut-être créé chez certains enfants une nouvelle histoire d'amour. Et à partir du moment où le désir de lire est là, bien, la motivation devient intrinsèque. Et là, ils n'ont plus besoin de mon défi. Ils peuvent poursuivre la lecture naturellement, avec plaisir, à la maison ou à l'école.
Mais c'est certain que ça doit aider beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui, on le sait, sont débordés de travail. Alors d'avoir un petit peu d'aide de votre part, je suis certain que ça, c'est très apprécié.
Voilà, j'essaie de faire ma part. J'ai quitté le milieu de l'enseignement parce que je devais choisir entre deux carrières. J'ai choisi celle d'auteur, mais j'ai encore dans mon cœur le désir de porter une mission. Donc, oui, c'était voulu là, d'appuyer mes anciens collègues enseignants et enseignantes.
Justement, on vient de le dire, vous avez enseigné pendant 10 ans hein, au primaire avant de devenir écrivaine à temps plein. Comment cette expérience devant une classe influence-t-elle aujourd'hui votre manière de concevoir des projets comme ce défi ou d'écrire vos séries de livres jeunesse?
Ça change tout. Ça change tout parce que déjà, j'ai l'habitude d'être devant les classes et j'ai cette façon, je pense, de pas seulement me questionner à savoir est-ce que j'offre une belle performance, mais plutôt qu'est-ce que les enfants vont en retirer de ma visite, parce que c'est ça qui est plus important pour moi. Au-delà d'aller bien paraître devant une classe, je veux surtout aller créer un impact positif chez les élèves, puis de surtout créer un impact qui va se répercuter à long terme, donc créer des jeunes qui vont peut-être s'accrocher à la lecture ou du moins s'y intéresser. Donc, il y a ce désir-là, peut-être un peu pédagogique, qui tient un peu toujours derrière mes idées, derrière ma façon d'approcher les jeunes, tout en étant de façon très théâtrale aussi, amusante, agréable. Comme je dis aux enseignants, là, je suis pas une prof devant la classe, je suis là pour venir amuser vos élèves, mais quand je repars, les enseignants ont l'impression qu'il y a quelque chose qui est resté dans la classe, outre qu'une auteure qui vient parler de son processus créatif. J'ai donné des outils concrets, j'ai aidé les jeunes, je leur ai donné des trucs d'auteur, mais des trucs qu'ils peuvent réellement appliquer dans leur quotidien à l'école pendant tout leur parcours scolaire. Donc, c'est ça qui est important pour moi.
J'ai lu quelque part qu'on parle de votre humour d'un humour à double sens qui séduit à la fois les parents et les enfants. Est-ce que c'est là le secret là, pour réussir à promouvoir la réussite scolaire tout en créant un véritable plaisir de lire loin là, de cette contrainte académique?
Je pense que vous avez une partie de la clé de la solution, effectivement. Bien sûr, l'humour va... Il y a beaucoup d'enfants qui me disent que c'est ce qu'ils aiment des livres que je produis. L'humour et l'audace, faut dire. De là, mon humour à double sens, c'est que parfois, je vais faire des clins d'œil à mes lecteurs à travers les livres. Donc, l'auteur, je brise le quatrième mur, comme on dit au théâtre, mais je le brise en littérature aussi. Je m'adresse personnellement aux enfants dans mes livres en tant qu'autrice du livre. Puis ça, ils aiment ça, ils trouvent ça drôle. Et ça crée un lien entre eux et moi. Puis quand je me présente en vrai dans les classes, ben là, ils connaissent déjà cet humour-là. Ça les fait rigoler. Puis ça leur montre que lire, c'est amusant. déjà, qu'on peut se divertir en lisant, que c'est pas juste une tâche scolaire, et on lit pour toutes sortes de raisons, et c'est ce que je leur raconte aussi quand je vais dans les classes. Puis une des raisons peut être de s'amuser tout simplement, sans nécessairement être en train de lire pour apprendre quelque chose. Parfois oui, mais parfois on fait juste aussi se divertir.
Mais il y a les parents qui vont rire aussi, peut-être pas pour les mêmes raisons.
Exact. Ben, dans la plupart de mes albums jeunesse, entre autres, je vais faire des blagues, là, parfois pour les parents, des blagues que les enfants vont pas saisir, mais qui alourdissent pas du tout le texte. Par exemple, je peux te dire que j'ai une collection qui s'appelle les albums de la ferme de la Haute-Cour. Et à la ferme de la Haute-Cour, on voit plusieurs animaux qui traversent toutes sortes de réalités. Donc, c'est des sujets assez d'actualité que je présente de façon ludique et agréable aux enfants. Et dans celle-là, on a une vache Highland qui est différente des autres et qui arrive à la ferme de la Haute-Cour. Et là, il y a les vaches à taches, les vaches Oyston, là, les tachetées de noir et blanche, qui veulent pas qu'elle rentre dans l'étable parce qu'elle n'a pas l'air d'une vache. Hein. Vous savez, les vaches Highland rousses avec leurs gros toupettes.
Oui,
et bon.
Oui, oui.
Donc là, à la fin de l'histoire, dans la morale, il y a, c'est connu, les ruminants mettent plus de temps à digérer que les autres. Mais donc, vous voyez, c'est le genre de blague là, qu'un enfant ne va pas du tout saisir, mais qu'un parent peut faire « Ah, c'est drôle ». Mais donc, ouais, j'essaie de faire...
Ah, moi, ça me parle, en tout cas. C'est mon genre voilà. D'humour. Le gala virtuel de janvier a récompensé de nombreuses classes. Pour les enseignants qui nous écoutent et qui trépignent d'impatience, parce que je suis certain que ça les intéresse, qu'est-ce qu'on peut leur dire là, pour la prochaine édition et les modalités d'inscription pour l'automne prochain?
Oui, mais déjà, en fait, si on va sur mon site internet, carinepaquin.com, Carine avec un C,
oui.
On peut déjà accéder, aller voir le défi, voir les photos de cette année, les chiffres et tout ça, mais on peut aller se mettre sur la liste de rappel. Donc, c'est pas une inscription encore officielle, mais ça fait que à l'automne, on va vous écrire pour vous dire, ben là, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Donc, tu sais, les enseignants, en ce moment, n'ont pas encore leur groupe pour l'an prochain, ils savent pas trop, mais peuvent du moins se mettre sur la liste de rappel et pas manquer le bateau, comme on dit. Ça coûte rien, ça n'engage à rien. Donc, j'encourage les enseignants ou même ceux, n'importe quel parent qui écouterait en ce moment et qui aurait envie d'en parler là, à l'enseignant de son enfant, ils peuvent aller juste se mettre sur la liste pour avoir le petit rappel l'an prochain de manière à pouvoir embarquer dans le défi Carine Paquin avec le défi bonifié. Hein, c'était notre première édition officielle cette année. Donc, pour l'an prochain, on revient avec une version améliorée, comme on dit. Donc, j'ai super hâte de relancer ça l'automne prochain.
Nouveau et amélioré. Merci beaucoup, Carine Paquin. Donc, pour plus d'informations, c'est le site carinepaquin.com. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Dans la presse d'aujourd'hui, je devrais dire, la mortalité recule pour les deux tiers des types de cancers étudiés selon l'étude Projection du fardeau du cancer au Canada en 2026, publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne. 254 000 Canadiens, dont 67 300 Québécois, recevront un diagnostic de cancer cette année. Les cancers du poumon, du sein, de la prostate et du côlon représentent à eux seuls 47 % des nouveaux cas. Les données révèlent que l'incidence est de 16 % plus élevée chez les hommes et la mortalité y est de 36 % supérieure par rapport aux femmes. Les épidémiologistes attribuent ce fléchissement à l'immunothérapie et aux campagnes de dépistage. À ce sujet, la Société canadienne du cancer préconise désormais d'abaisser l'âge du dépistage à 40 ans pour le cancer du sein et à 45 ans pour le cancer du côlon. Malgré ces avancées, des obstacles subsistent. Un quart des nouveaux cas de mélanome et de cancer du poumon souffrent de retards de diagnostic liés aux difficultés d'accès aux médecins de famille, alors aussi qu'un dermatologue sur cinq pratique dans le privé. L'incidence donc du cancer normalisé selon l'âge est projetée à 663,3 cas pour 100 000 personnes au Québec, comparativement à une moyenne nationale de 591,4 cas au Canada. Donc, cette année. Ben, nous, on a le temps de vous dire qu'après la pause, on va parler du gala Dynastie et on va parler aussi du mois de l'autisme. À tout de suite.